a little walk to the edge of town and go across the tracks, where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Hey man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. He'll wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta ta ta. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mardi. J'ai trop aimé Santiago.
Bonjour Serge, quelle est donc la place des océans dans l'histoire de l'humanité ?
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui donc je vais parler des océans et comme tu viens de me poser la question, eh bien on va rentrer un peu dans l'histoire de l'humanité. Effectivement, si on se met au bord d'une mer, sur un littoral, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une grande nappe bleue. Bleu, vaste, et on s'imagine bien qu'au début de l'humanité, cette grande masse bleue qu'on ne pouvait pas traverser devait terrifier nos ancêtres. Donc c'est un espace particulier qui c'est un espace aussi de d'exploration, de d'échange, de mythes, de rêves, de combats dont je vais parler aujourd'hui. Dans l'Antiquité, on a déjà ce célèbre poème, les célèbres poèmes d'Homère, qui commencent par « Heureux qui comme Ulysse », et qui ont un trait à cette Méditerranée. Cette Méditerranée, c'est une mer entre des terres. Et cette Méditerranée est donc un lieu d'échange. C'est par la Méditerranée que nous est arrivé de Phénicie l'alphabet. C'est par la Méditerranée que nous que sont arrivées les idées mythologiques, les dieux, le monothéisme. C'est par la Méditerranée que l'histoire de France a véritablement commencé, par la fondation de Marseille par des étrangers grecs qui venaient de la ville de Phocée. C'est aussi cette Méditerranée que l'on a appelée à un moment donné, que les Romains ont appelée Mare Nostrum, donc leur mer à eux, qui a fait en sorte que partout autour du pourtour méditerranéen, on ait à un moment donné la même civilisation, les mêmes idées, on a eu à un moment la même religion chrétienne, teintée de polythéisme comme à chaque fois. La Méditerranée n'est pas le seul endroit où l'humanité que l'humanité a exploré. Il n'y a pas que les Européens ou ou les habitants du bassin méditerranéen qui ont exploré les mers. Vous avez en Polynésie, dans le Pacifique, des Maoris qui sont partis apparemment d'Asie et qui ont traversé l'ensemble de ce grand océan Pacifique, pas si pacifique que ça d'ailleurs, pour aller peupler les îles Hawaï jusqu'aux îles polynésiennes de Pitcairn. Et apparemment, une tendance scientifique actuelle dirait même que ces Maoris qui étaient venus d'Asie sur leurs frêles esquifs auraient abordé les côtes de l'Amérique du Sud. Autre peuple aussi de grands navigateurs, les Vikings. Donc, puisque ces Vikings ont non seulement été jusqu'en mer Noire et en Méditerranée, mais aussi auraient apparemment, et on en a trouvé les traces, découvert l'Amérique bien avant 1492 et le célèbre navigateur italien pour le roi et la reine d'Espagne, Christophe Colomb. Donc, nous avons donc des Européens, des Polynésiens, mais aussi des Chinois, puisque jusqu'à leur fermeture sur leur propre continent, c'est-à-dire sur aux alentours du XVIe siècle, nous avons eu un grand navigateur chinois qui est allé jusqu'en Afrique, qui s'appelait Zheng He. Donc voici cette humanité qui construit des ports, qui a des bateaux de pêche, qui traverse les mers, qui découvre l'astrolabe et d'autres façons de naviguer. Je rappelle quand même qu'en l'Antiquité, traverser la mer Méditerranée n'était pas chose aisée. On avait notamment dans la mer Tyrrhénienne, celle qui borde l'Italie, la Corse et la France, une période hivernale pendant laquelle aucune navigation n'était possible. Donc c'est la voie de partage, c'est la voie donc de conquête coloniale, et nous arrivons à partir du XVe siècle à un changement majeur, qui est le fait que les Européens soient sortis enfin de leur continent, je dirais enfin, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour eux et pour leur domination, sont sortis de leur continent, notamment par un roi portugais, Henri le navigateur. Si vous allez un jour à Lisbonne, vous avez un très bel endroit sur lequel vous avez une statuaire avec tous les navigateurs portugais qui ont traversé l'océan Atlantique et qui sont allés jusqu'à l'océan Indien et au Brésil. Bref, et nous sommes à partir du XVe siècle, dans ce qu'on appelle en histoire les grandes découvertes, qui ne sont pas des grandes découvertes scientifiques, mais des grandes découvertes terrestres. Attention, grandes découvertes terrestres pour les Européens. Toutes les zones côtières étaient apparemment connues, sauf à l'exception notoire de l'Australie, étaient apparemment connues des autres civilisations. Encore que les aborigènes sont aussi une civilisation, donc il faut bien qu'il y ait des hommes qui traversent les océans pour aller vivre en Australie. En Australie. Donc, nous arrivons donc au siècle, au XVe siècle, XVIe siècle, et ces grandes découvertes-là ont un but. Ont plusieurs buts, mais l'un des principaux buts, c'est de contourner le commerce avec les Ottomans qui attaquent en Méditerranée et qui seront définitivement battus à la bataille de Lépante, et donc de ne plus faire commerce avec ces Ottomans qui menacent Vienne, qui menacent la chrétienté, à l'exception notoire de la France qui est alliée avec eux. Et ce contournement, en fait, il est aussi pour rechercher des produits coloniaux que n'a pas, que ne possède pas l'Occident européen. Entre autres produits coloniaux, vous avez le curry, le poivre, le café, tout ce qui était vendu en fait à Venise et à Gênes et qui faisait la richesse de ces deux ports méditerranéens européens, parce qu'ils étaient vendus à des aristocrates ou à des riches hauts bourgeois dans les principales villes européennes. Donc ici, j'ai donc un commerce colonial qui commence à se mettre en place, et comme 1492 a donné le continent américain aux Européens, puisqu'il s'en était fallu comme ça, cette découverte du continent européen, du continent américain en 1492 a entraîné en fait la disparition massive des Amérindiens. Et pour remplacer cette disparition massive des Amérindiens, tour à tour massacrés, exploités, esclavagisés, il a fallu remplacer cette main-d'œuvre qui tendait à disparaître par une main-d'œuvre plus docile. Et cette main-d'œuvre plus docile, malheureusement pour eux, c'était surtout des Noirs africains qui étaient vendus dans les ports, dans les comptoirs européens, notamment français de Gorée, qui étaient vendus par des marchands marseillais, de Lorient, de Bordeaux, de Nantes, toutes ces belles villes qui doivent leur architecture à ce commerce triangulaire. Et ce commerce triangulaire, je rappelle un peu le principe, vous prenez un colifichet, c'est-à-dire une verroterie, un bijou bas de gamme, à 1 euro pièce, là, ce qu'on nous vend ici, maintenant en forme plastifiée. Vous le vendez et puis vous l'échangez à des Arabes ou des princes noirs que vous avez mis dans votre poche, et ensuite eux ils vont kidnapper à l'intérieur des terres africaines de bons futurs esclaves qui vont pouvoir vous échanger ou vous vendre, et vous ensuite les Européens vont ensuite les transporter vers le Brésil, les Antilles, l'Amérique du Nord, le Mexique, histoire d'avoir une main d'œuvre véritablement servile qu'ils pourront exploiter pour le plus grand bonheur des colonisateurs et aussi de ceux qui vont vendre ces produits coloniaux en Europe, puisque la canne à sucre, puisque le cacao, puisque tout ça, eh ben nous ne l'avons pas en Europe, et donc ça permettait ce commerce angulaire de faire de substantiels bénéfices. C'est un peu l'équivalent aujourd'hui d'une délocalisation d'entreprises textiles en Chine ou au Bangladesh pour pouvoir nous vendre des fringues à 3 euros, 2 euros qui seront détruits au bout d'un été. Voilà, c'est à peu près le même principe. En fait, on n'a pas véritablement changé, sauf que nos esclaves, on va plus les chercher essentiellement en Afrique noire, on transporte nos usines vers des zones d'esclavage modernes. Donc, suite à ce commerce triangulaire, nous avons aussi la quête de l'or. Effectivement, le continent européen n'est pas riche en or, il n'est pas riche en argent. On a bien quelques petites pépites quelque part, mais enfin, c'est pas ce qui rend nos rois riches, et surtout à partir du 15e siècle, 16e siècle, où il faut payer des canons, des armées richement cuirassées, donc on a besoin d'argent. Et pour ce besoin d'argent-là, bah, l'Amérique ouvre ses bras, ou plutôt les empires aztèques et incas ouvrent leurs bras, ou plutôt nous les pillons, ça serait plus juste de le dire ainsi. Et donc on a un commerce de l'or qui traverse l'Atlantique, qui traverse même le Pacifique, et ce commerce de l'or, ben ça permet aussi le développement de quelque chose comme ben, de la piraterie. La piraterie se développe à partir du 7e siècle. Le premier acte de piraterie, c'est un navire de Dieppe qui a piraté un galion espagnol, et c'est le premier acte de piraterie européenne au 16e siècle. En même temps, il a pris les cartes des portulans espagnols, et il en a fait don à la marine royale française qui était en constitution à ce moment-là. Donc voici, je vais faire un peu court sur cette question-là, mais voilà les bases. Le colonialisme, le partage du monde entre l'Espagne et le Portugal à la fin du 15e siècle, le fait que les rois, la reine d'Angleterre, notamment Elisabeth I, n'ait pas été d'accord avec ça et envoie un de ses fidèles navigateurs, Francis Drake, allait titiller un peu les Espagnols dans leur zone apparemment de confort au large de San Francisco, de Los Angeles, ou alors le roi de France qui envoie aussi ses propres corsaires à l'assaut des galions espagnols, histoire de bien montrer que non, franchement, ça peut pas fonctionner comme ça. Le monde peut pas se partager seulement entre deux puissances, l'Espagne et le Portugal. Donc on a des nouvelles puissances, notamment européennes, qui prennent le pas. La Grande-Bretagne, la France, je rappelle que nous avons une grande colonie américaine avec le Canada et la Louisiane, où nous avons exporté déjà à l'époque tout ce que nous voulions plus dans le bon royaume de France, c'est-à-dire nos pauvres, nos prostituées, qui volent une pomme ou peut voler un jour un œuf ou un bœuf, et donc et prier d'aller se faire pendre du côté de la Nouvelle-Orléans. Et donc, ça laisse aussi la place, cet espace océanique et maritime, à ce qu'on appelle la course, c'est-à-dire le pillage de ces beaux bateaux hollandais, anglais, français, par des corsaires du roi. Et donc tout l'enjeu au XVIIIe siècle, c'est qui maîtrise les mers. Ben, qui maîtrise les mers gouverne le monde. Et les Anglais l'ont bien compris, puisque ils ont perdu les États-Unis parce que la marine française les avait battus aux Antilles et au large des nouvelles États-Unis. Les Français ont été vaincus dans leur expansion révolutionnaire et post-révolutionnaire, surtout impériale, par la célèbre bataille de Waterloo qui nous a cloués sur notre continent, alors que les Anglais pouvaient piller allègrement le sucre de Saint-Domingue et d'autres possessions françaises comme l'île Maurice à l'époque. Nous avons donc ici l'objectif de ces pays-là, l'Angleterre, la Hollande, les Pays-Bas, la France, c'est donc bien de posséder des ports, des îles. Et ces îles, en fait, elles servent, et ces ports servent à l'avitaillement. C'était en ravitaillement des marins et des navires. Il faut bien avoir du citron pour échapper au scorbut. Il faut bien avoir de l'eau propre. Il faut bien avoir des boulets. Il faut bien avoir des cordages. Donc, on fait les ports pour cette raison-là. Ça sert aussi pour la chasse à la baleine. Alors, je sais qu'en ce moment, la chasse à la baleine, c'est pas véritablement super. C'est juste pris par, juste organisé par les Japonais et nos amis islandais, soi-disant pour des raisons scientifiques. Bon, peu importe. À l'époque, c'est la grande pêche. Hein, c'est la grande pêche, c'est ce qu'il faut absolument pêcher. Il faut absolument pêcher de la baleine parce que c'est le seul gras que nous ayons pour faire tout ce qui est les maquillages. Et il y a au XVIIIe siècle, il n'y a pas que les femmes qui se maquillent, les hommes se maquillent aussi. On se maquille énormément, et donc on a besoin de cette graisse pour fixer le maquillage. Ça permet aussi les navires de commerce d'être plus rapides. Et nous avons aussi des îles qui sont spécifiques. On avait les îles à sucre, hein, la grande richesse du port de Bordeaux et de Nantes, c'était l'île à sucre de Saint-Domingue. Nous avons un exemple, par exemple, c'est celui des Pays-Bas. Les Pays-Bas voulaient avoir le monopole du clou de girofle. Alors, le clou de girofle, c'est ce qu'on met dans certains plats, c'est ce qu'on prend aussi quand on sent un mal de dent, on se prend un clou de girofle et puis ça passe un peu mieux avant que le dentiste vienne effectivement vous arracher la dent qui vous fait mal, ou vous traiter la racine qui vous fait hurler de douleur. Les Hollandais voulaient avoir ce monopole. Et en Indonésie, ils avaient fait une razzia sur toutes les îles où il y avait des clous de girofle. Et un jour, ils se rendent compte que, il y a une île où il y a déjà l'Union Jack. Alors, ils disent, ah non, il y a les Anglais qui sont là, nous on va avoir le monopole du clou de girofle. Hein, parce que le clou de girofle en Europe, ça rapporte beaucoup d'argent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand ils sont rentrés à Amsterdam, ils ont dit, nous on a un problème, il y a les Anglais qui sont sur cette île et nous on voudrait bien posséder cette île. Donc ils sont allés à Londres avec une carte, ils ont dit, nous, est-ce que ça serait pas possible d'échanger cette petite île-là avec quelque chose pour vous? Donc on fait des échanges d'îles. Alors les Anglais ont dit oui, mais vous échangez contre quoi? Je sais pas, choisissez. Et les Anglais ont vu, mais tiens, là il y a une petite ville là qui s'appelle New Amsterdam qui nous plairait bien sur la côte est de l'Amérique du Nord. On vous prend cette île là et puis on vous prend New Amsterdam. Les Hollandais ont dit ça c'est très bien, pas de problème, on signe. Donc ils ont signé pour avoir une île inconnue aujourd'hui du vaste monde pour échanger Amsterdam qui est devenu aujourd'hui New York.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des langueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en plus. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent de cou
pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que, tout à coup, l'accordéon expire. Alors, le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur bâtard jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs, enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
Pour ce commerce, la révolution industrielle va révolutionner la navigation maritime. Elle va la révolutionner parce que on va quitter peu à peu, tout au long de, à partir de la moitié du 19e siècle, on va quitter peu à peu la marine à voile, qui était déterminée et qui devait lutter contre vents et marées, contre vents et courants. Eh bien, cette marine à voile disparaît et laisse place à la marine à vapeur. Marine à vapeur et marine, donc, au charbon et à l'eau, marine aussi au diesel, puisqu'à partir du moment où on invente en Allemagne le moteur à explosion avec Monsieur Benz, eh bien on invente par la même occasion une autre motorisation qui donnera par exemple le Titanic, qui donnera les cuirassés. Donc cette révolution industrielle qui fait des bateaux qui seront plus véritablement en bois ou de moins en moins en bois, où le bois ne sera plus que une couverture intérieure histoire de protéger du froid et des intempéries, eh bien ce 19e siècle change radicalement donc la navigation et l'aspect de voir le monde, ce monde marin. Pourquoi ? Ben parce que pour à la fin du 19e siècle, on invente en plus le sous-marin. C'était une vieille idée qu'on retrouve déjà chez Léonard de Vinci, mais qui cette fois prend réalité et que décrit déjà Jules Verne dans son livre célèbre 20 milieux sous les mers. Donc on a cette marine qui change d'aspect, qui devient plus rapide, qui peut transporter plus de monde. On s'imagine pas, mais sur les caravelles de la traversée de l'Atlantique par Christophe Colomb, il y avait 30 marins, 40 au plus. Là, maintenant, je peux transporter 3000, 5000 personnes. Les volumes sont plus énormes. Je peux à ce moment-là, et l'Europe s'en chargerait, je peux à ce moment-là véritablement prendre plus de monde et plus de marchandises. Et cette domination européenne par ces constructions navales, par cette nouvelle façon de naviguer, eh bien, elle va permettre aussi la colonisation française, la colonisation anglaise, la colonisation espagnole, enfin moins espagnole parce que les territoires espagnols ont quasiment tous demandé leur indépendance, mais cette colonisation, y compris américaine à la fin du 19e siècle, eh bien, elle est permise parce que justement, on a une supériorité maritime sans conteste. C'est-à-dire que quand on a des navires chinois qui essayent de se battre contre des navires européens, bah, ils sont coulés avec une rapidité inégalée jusqu'à présent. Et donc cette colonisation, elle part toujours des ports. Ces ports qui ont été constitués par les Espagnols, les Portugais, les Français, tout autour du littoral africain, par exemple, eh bien, c'est Dakar, c'est Cap, ce sont des points d'appui à l'entrée à l'intérieur des terres. Pensez que la prise d'Alger, par exemple, en 1830, par les Français, a permis en fait la colonisation de l'ensemble du Maghreb, par la suite, par les mêmes Français. Donc, je suis ici dans un monde à une économie dominée par cette révolution industrielle européenne qui s'étend aux États-Unis, qui s'étendra à partir de 1860 au Japon. Et ceci permet aussi cette construction des navires, cet agrandissement des ports, eh bien, permet aussi l'émigration européenne. On parle beaucoup en ce moment d'invasion immigrée vers l'Europe, mais il faut s'imaginer que le XVIIe, XVIIIe, et notamment le XIXe siècle et le début du XXe siècle, ont été véritablement l'émigration la plus importante de l'humanité, avec 50 millions de personnes qui ont traversé l'Atlantique pour aller vivre en Amérique du Nord, entre le Canada, mais surtout les États-Unis d'Amérique. Il y a notamment une histoire de pauvres Français qui avaient été, après la révolution de 1848 et la répression à Paris en juin 1848 par la bourgeoisie qui s'était attaquée aux pauvres ouvriers qui voulaient une république plus sociale, eh bien, ces pauvres airs, on leur avait organisé des loteries, on leur donnait des pelles, des billets de bateaux pour aller à San Francisco, aller chercher ensuite en Californie de l'or. On a 50 000 Français comme ça qui ont traversé l'Atlantique et le Pacifique pour aller chercher de l'or en Californie. Donc, et ensuite, cette immigration, elle est plus ou moins forcée. Elle est plus ou moins forcée. Il faut penser, par exemple, aux pauvres petits basalpins courageux qui avaient, en 1851, résisté au coup d'État de Napoléon III. Eh bien, ces pauvres basalpins, s'ils n'ont pas été fusillés sur certains murs de nos communes, eh bien, ils avaient été déportés, hein, le terme est juste, déportés vers l'Algérie. Hein, c'était très bien l'Algérie. On leur disait, ben voilà, c'est bon, c'est à vous, une pelle, une pioche, et puis vous allez me refaire la plaine est à vous. On n'a pas demandé l'avis des Maghrébins qui habitaient à l'époque en Algérie. Et c'est la même chose, hein, l'océan permet aussi à nos basalpins, un peu moins révolutionnaires de Barcelonnette, bien d'aller vers le Mexique en passant par la Nouvelle-Orléans, essayer de faire richesse avant de revenir à Barcelonnette. Marseille, dans ce contexte, c'est donc le premier port colonial français. C'est le port le plus riche, une partie de la richesse marseillaise que vous voyez quand vous baladez sur le vieux port. Par exemple, l'ancienne mairie, puisque c'est le seul bâtiment qui nous reste, étant donné que les Allemands ont tout détruit en 1943. Donc, cette ancienne mairie, la chambre de commerce de Marseille. Bah, si vous rentrez à l'intérieur, vous voyez bien que c'était une vieille ville qui a prospéré grâce à la colonisation. C'était le port par lequel venaient toutes les productions d'Indochine, d'Afrique noire, de Dakar, d'Afrique du Nord. Et je le dis souvent à mes élèves, mais quand vous allez à Alger, en fait, c'est un copier-coller de Marseille. On a à peu près le même type de bâtiment, les mêmes avenues. Voilà. Et donc, cette Europe conquérante, cette Europe coloniale, elle va créer des ports. Elle crée Bombay en Inde, elle crée Hong Kong, elle crée Singapour, elle crée Sydney, elle crée Buenos Aires, elle crée New York, elle crée San Francisco. Elle ne crée pas, enfin si, elle crée, parce que c'est quand même des Espagnols qui ont créé San Francisco. Et à la fin du 19e siècle, on a une nouvelle mode. Nouvelle mode qui nous vient de l'aristocratie britannique, prendre ses bains. Prendre ses bains, c'était bien, ça, prendre ses bains. Donc les Anglais, les riches Anglais, qui en avaient marre d'être dans une Londres toute noire de suie, avec les usines naissantes et les vieux bouches dans lesquelles traînait la classe populaire, eh bien cette jeunesse, cette aristocratie, jeune aussi, se retrouvait allègrement vers Brighton en faisant une première station balnéaire. Et elle s'est dit, nous qui faisons des voyages en Italie pour voir un peu la Rome antique, les vieux sites, Pompéi, ça serait bien qu'on aille l'hiver, quand il fait bien froid en Angleterre, qu'on aille vers la Côte d'Azur. Et donc, c'est le début des stations balnéaires du côté de Nice, de Cannes, faites par des Anglais. Et puis, comme l'aristocratie anglaise est bien dominante et domine bien le restant de l'aristocratie européenne, eh bien, cet exemple va être pris par l'aristocratie française, germanique, russe. Tout le monde voudra avoir son petit Nice et sa petite promenade des Anglais. Donc les océans et les mers sont aussi un espace rude, c'est un espace de trafic aussi. Je pense notamment à Henri de Montfort, Fred à Djibouti, qui faisait du trafic un peu humain, qui faisait aussi du trafic de cat, c'est-à-dire cette espèce de d'herbe un peu euphorisante que l'on mâche du côté de Djibouti encore aujourd'hui. C'est aussi l'image de l'officier de marine, hein, dans les romans d'aventuriers, esprit de liberté ou sadique implacable comme dans Les Révoltés de la Bounty. C'est aussi tous ces récits de Jules Verne, tous ces récits d'Hemingway, Le vieil homme et la mer, c'est ce rapport un peu mythique, mythologique avec une mère qui forge l'homme, qui lui permet de penser sur lui-même. Pour ceux qui ont déjà navigué sur un voilier seul, ou accompagné même, ça permet d'être complètement dans un autre monde. Vous êtes dans un autre monde. Et la Deuxième Guerre mondiale, cette Deuxième Guerre mondiale, la première était déjà déterminante pour la marine, mais la Deuxième Guerre mondiale va être encore plus déterminante et va jeter les mers et les océans dans une autre dimension.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, des oiseaux blancs.
Alors, quels sont les enjeux militaires depuis la Seconde Guerre mondiale que tu évoquais juste avant l'intermède ?
La Deuxième Guerre mondiale a clairement démontré l'intérêt d'avoir des bases aéronavales circumterrestres et de maîtriser les mers. Les Allemands, les Japonais ont essayé, chacun à sa façon, d'interdire en fait aux Alliés de maîtriser les mers. Les Allemands, avec des U-boats, ont sillonné l'Atlantique pour couler le plus de navires possible, et les Japonais, dans leur attaque de Pearl Harbor, n'avaient qu'un seul objectif, celui de couler les trois porte-avions que possédaient les États-Unis. Et malheur leur en a pris, puisque ces trois porte-avions n'étaient pas dans la base aéronavale de Pearl Harbor le jour de l'attaque. Donc, que ce soit face aux Allemands ou face aux Japonais, il fallait absolument contrôler les mers pour les vaincre. La portée, il n'y avait pas de missiles, les avions n'ont pas un rayon d'action extraordinaire, et il fallait absolument posséder des voies de navigables sûres pour pouvoir transporter les troupes, le matériel. Je rappelle que même si la résistance britannique a été élogieuse jusqu'en 1941-1942, c'est les seuls qui avaient résisté, hein. Je rappelle que Staline à l'époque était jusqu'en 1941 allié d'Adolf Hitler, les Américains n'étaient pas véritablement dans le coup. Donc il a fallu que les Japonais attaquent les États-Unis pour que les Américains aident foncièrement et militairement les Alliés, qu'ils soient soviétiques ou britanniques. Donc dans le Pacifique, ça s'est transformé en quelque chose qu'on appelle là-bas le cargo culte, c'est-à-dire que les îles ont vu tout d'un coup débarquer une noria de bulldozers, d'Américains, noirs, blancs, indiens, construire des villes là où il n'y avait rien, des ports avec du béton, des pistes d'atterrissage, et bien sûr, et tout ce qui va avec, c'est-à-dire la l'argent, le Coca-Cola, le mode de vie américain, la musique américaine. Jamais dans les îles du Pacifique on avait vu un tel déballage de richesses, de d'opulence, de technologie. Ce qui fait que après la guerre, il y a eu des moments de douce tension entre les populations et la métropole, et les métropoles, qu'elles soient britanniques ou françaises, pour dire moi il faudrait peut-être nous aider comme les Américains nous ont aidés. Et comme nous on était un peu pauvres, on l'a pas fait. En tout cas, on l'a pas fait de cette façon-là. Donc cette guerre du Pacifique notamment a prouvé l'importance d'une île pour être une base aéronavale d'attaque ou de contre-attaque vis-à-vis d'un ennemi. Et aussi l'importance d'avoir des porte-avions, d'où la construction de plusieurs dizaines de porte-avions du côté américain pour faire pour battre les Japonais sur le terrain aéronaval. Donc, et après la Deuxième Guerre mondiale, donc on est tout de suite rentré, hein, je rappelle, hein, en deux ans, on est tout de suite rentré dans une guerre froide. Alors là, c'était clair, hein, le but de ces îles-là, c'était de contenir en fait l'ennemi communiste. Il fallait absolument que on les contienne, ou que les alliés français, britanniques, qui avaient des colonies, contiennent ce péril communiste. Et donc c'est pour ça que les Américains ont soutenu Taïwan contre Mao Tse-tung en 1949 quand il prend le pouvoir. C'est pour ça aussi que les Américains ont mis des bases en Micronésie ou aux Philippines, à Subic Bay. Donc dès qu'il y avait un problème, paf, on met une base aéronavale, et puis de cette base aéronavale, bon, on peut envoyer des troupes, on peut envoyer des avions, on peut envoyer ce qu'on veut pour attaquer son ennemi. Et désormais, ces bases qui pourraient ne plus avoir de sens, puisqu'il n'y a plus de péril communiste, ben, ça sert à quoi ? Ben, ça sert à la poursuite des satellites, ça sert aussi à la poursuite des missiles, c'est-à-dire que pour guider un missile, il faut bien qu'il y ait un satellite, quelque chose qui guide ce satellite, et donc ces îles-là servent aussi de guidage satellite. Ces îles que nous possédons encore, nous Français, Britanniques, les Pays-Bas, les États-Unis, eh bien ça permet aussi d'écouter ses adversaires. Les Américains ont développé un réseau échelon, mais nous aussi, on a aussi notre propre réseau à nous, d'écoute. C'est-à-dire qu'on peut écouter le monde entier. Écouter le monde entier, c'est aussi essayer de deviner ses propres secrets. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on assiste ? On assiste en fait depuis une vingtaine d'années. On a cru à la fin de la guerre froide que la paix serait universelle, que ça serait super. On avait même des historiens qui nous expliquaient que c'était la fin de l'histoire et donc qu'on n'aurait plus jamais de conflits, que tout allait mieux dans ce vaste monde. Or, ce qui se passe, c'est que nous avons des puissances qui émergent. Alors, on en a une, hein, qui est super dominante, ce sont les États-Unis. Voilà, il n'y a pas de conteste, hein, avec notre malheureux porte-avions, même avec les deux porte-avions britanniques qu'ils viennent de construire, ben, par rapport à la puissance à la puissance américaine, on fait un peu pas le figure. Donc, mais vous avez des pays qui voudraient avoir être un peu plus respectés, que l'arme nucléaire, c'est bien pour le respect, mais ça sert pas tout le temps. Et on peut pas véritablement être une dissuasion nucléaire pour tout le monde. Donc il faut avoir une force de projection. Ce qui vous donne la force de projection, c'est à la fois l'air, mais c'est surtout la marine qui vous le donne. Parce qu'il faut pouvoir transporter les hommes, il faut pouvoir transporter les blindés, il faut pouvoir transporter les hélicoptères, il faut pouvoir transporter un peu tout ça. Et pour tout ce matériel et pour tous ces hommes, si on veut les transporter, eh bien il vaut mieux avoir une marine digne de ce nom. Donc quels sont les pays qui ont développer une marine digne de ce nom. Alors aujourd'hui, on a donc la marine américaine, je ne vais pas revenir dessus, hein, ils ont été capables par mer de transporter une grande armée pour envahir l'Irak deux fois. Vous avez un pays, par exemple, là, je reprendrai comme ça au hasard, la Chine. Alors la Chine, c'est le grand ennemi. Hein. Vous avez tous entendu ce qui se passe entre Trump et Xi Jinping, avec les marques chinoises qui sont interdites de vente et pour le Pentagone, parce qu'il y a un problème de sécurité nationale qui est mis en avant par l'administration américaine. Eh bien, la Chine voudrait bien sortir un peu de sa puissance strictement terrestre. Elle sent bien qu'il faut pour qu'elle soit considérée comme une puissance mondiale, il faut qu'elle puisse sortir de son territoire originel. Et pour sortir de son territoire originel, Xi Jinping, donc le président actuel à vie, je rappelle, parce qu'il s'est désigné il a été désigné président à vie. Donc ce président Xi Jinping a décidé de faire ce qu'on appelle des colliers de perles, c'est-à-dire une série de bases aéronavales dans des pays qui sont alliés de la Chine, comme par exemple la Birmanie, comme par exemple le Pakistan et ou Ceylan, et vers où ? Ben jusqu'à Djibouti. Pourquoi ? Parce que la Chine voudrait bien avoir un rôle à avoir dans la sécurité de son approvisionnement en pétrole et dans son exportation de produits chinois vers le reste du monde. C'est pas pour rien que Xi Jinping est allé serrer la paluche du premier ministre du ministre de l'Intérieur ou du premier ministre, je sais plus ce qu'il est, Salvini, le copain à Marine Le Pen. Donc
je sais qu'il est italien, mais...
Oui, il est italien, oui, ça c'est sûr. Mais enfin bon, apparemment, il serait en passe de vendre un port italien à la Chine sans que ça lui pose un quelconque problème national. Donc, ces voies que Xi Jinping appelle les routes de la soie ne sont pas que des routes terrestres, faut quand même pas exagérer, puisque 90% du transport de commerce mondial se fait principalement par voie maritime. L'autre pays qui regarde un peu ses colliers de perles avec intérêt, parce qu'il n'est pas tout à fait d'accord, c'est l'Inde de Modi, hein, un autre nationaliste indien, qui lui aussi voit d'un mauvais œil le fait que les Chinois possèdent désormais le port du Sri Lanka. L'autre pays dont vous avez tous entendu parler un jour, c'est la Russie. Alors la Russie, pourquoi est-ce qu'elle a repris Sébastopol ? Bah parce que Sébastopol, c'était avec Vladivostok, c'est son seul port militaire en eau chaude, c'est-à-dire ouvert toute l'année, et c'est aussi historiquement leur port militaire. Hein. C'est un peu comme si on avait donné Toulon à quelqu'un d'autre. Mais bon, quand même, il a été jusqu'à remettre en cause des frontières de son pays pour capter donc ce port et aller aider, ce qui lui a permis aussi d'aller aider son copain Bachar el-Assad contre sa population qui demandait juste un tout petit peu plus de démocratie. Voilà. Quant à la France, bah la France, je vous rappelle qu'elle est présente hein, dans ses bases militaires, il n'y a pas que Toulon, vous avez maintenant une base à Abu Dhabi dans les Émirats Arabes Unis, vous avez Djibouti qui est aussi un port militaire français, vous avez Abidjan qui est aussi un port militaire français. Dès qu'on intervient quelque part, de toute façon, il nous faut des ports. Donc, mais ce qui fait aussi la puissance militaire d'un pays, c'est aussi sa capacité à construire, à faire de la recherche et développement, et aussi sa capacité à combattre. Donc, on peut avoir sur le papier, sur Internet, vous voyez ça souvent, hein, les 10 meilleures marines du monde, les 10 meilleures... Alors, tout ça, c'est du flan. Ça, c'est bon pour le gogo qui regarde ça le samedi après-midi, parce qu'il a rien d'autre à faire. Ça ne sert strictement à rien. Ce qui fait la force d'une marine, c'est son expérience militaire, et pour ça franchement les puissances occidentales sont encore très 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 loin devant la Chine, l'Inde et compagnie. Donc quand on vous dit attention, il y a un risque, oui, il y a toujours des risques, mais enfin c'est des risques quand même qui sont limités, nos marins sont quand même d'une expérience notoire. Notez enfin pour cette question militaire que la dernière bataille navale réelle qu'on ait eu entre deux puissances, et encore je vais mettre des guillemets peut-être à puissance, entre l'Argentine et la Grande-Bretagne, en 1982 aux Malouines, c'est la dernière fois que deux marines se sont fait face à face, et les Anglais ont dû leur survie au fait que les Français leur aient donné les clés des exocètes qu'ils avaient vendus gentiment aux Argentins. Donc là aussi c'est pareil, hein, qui maîtrise la technique maîtrise les mers. Donc aujourd'hui en fait le problème il est plus dans la technique et dans la technologie que dans les mers. Pensez à un navire de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale, mettez-le en rapport avec la navire de guerre d'aujourd'hui, ni au niveau du nombre de matelots, ni au niveau de son armement, il y a une commune mesure avec des navires d'antan. Donc, on va dire les choses très clairement, hein, on a une domination occidentale sur américaine, européenne, sur cette question des océans maritimes. Et si vous regardez, même dans les compagnies économiques, bien vous remarquerez la domination encore une fois européenne, même si on voit poindre des puissances qu'on ne voyait pas il y a 20 ans, comme la Chine notamment.
Working you by pleasure, search the world for treasure, learn science, technology. To fly, play, and sport.
Serge, après les enjeux militaires, qui domine économiquement les océans et les mers ?
Donc à partir de 1945, les Américains pensent qu'il y a quelque chose sous l'eau. Ils en sont même certains, puisque ce sont les premiers à avoir exploité le pétrole offshore à partir des années 30. Et donc, notamment dans le golfe du Mexique et au large de la Californie. Donc, ce sont les inventeurs des plateformes offshore. On a une compagnie, Texas Company, qui commence à vouloir exploiter le pétrole au Venezuela, dans le golfe du Mexique, au Mexique, en Californie, et qui a construit, déjà depuis 1912, elle connaît aussi la technique du pipeline. Alors, le pipeline, c'est ces grands tuyaux là qui nous transportent le gaz et le pétrole. Donc ces découvertes vont faire en sorte que l'administration américaine va demander en fait un droit, et donc il va rentrer en conflit avec d'autres pays, la France, la Grande-Bretagne, elle va vouloir avoir des îles qu'elle ne possédait pas. Alors à un moment donné, dans les années 1950, elle va vouloir racheter des îles aux Français dans le Pacifique, et les Français vont tout faire pour que justement les Américains puissent pas leur acheter quoi que ce soit. En 1973, les Européens se lancent aussi dans la course, parce que on est en plein choc pétrolier, il faut trouver du pétrole, et nos scientifiques et nos navires scientifiques ont trouvé du pétrole au fond de la mer du Nord. Et donc, les Britanniques et les Norvégiens vont commencer à exploiter, avec British Petroleum, vont exploiter le pétrole en mer du Nord. En 2019, donc aujourd'hui, on est à plus de 600 plateformes offshore à travers le monde. Gaz, pétrole, tout est exploité. Donc cette exploitation, et au fur et à mesure où le prix du baril augmente, on a une exploration qui est de plus en plus profonde. C'est-à-dire qu'au départ, on était sur des 500 mètres de profondeur. Désormais, on peut descendre jusqu'à moins 2500 mètres de profondeur pour aller exploiter du pétrole. Donc la multiplication de ces enjeux économiques a fait que la recherche, la prospective pétrolière a fait des bons en avant, et nous avons même maintenant l'Égypte qui vient de découvrir il y a 2 ans du pétrole au large de ses côtes méditerranéennes, Israël qui vient de prendre aussi qui vient de voir aussi ça arriver devant ses côtes, et donc on commence à avoir une exploitation de ces nappes pétrolières au large des côtes méditerranéennes. Le seul problème, c'est qui peut exploiter ces côtes. À qui appartient cet espace ? Pour éviter les conflits entre les pays, parce que justement il y en avait, notamment à l'époque dans les années 70 à cause des zones de pêche, a été fait une réunion des Nations Unies en 1982, donc à Montego Bay, qui a créé les ZEE. Les ZEE, c'est quoi ? Prenez n'importe quel point qui dépasse de l'eau et qui vous appartient, un petit rocher, un petit récif, n'importe quoi, vous prenez un compas et vous tracez un cercle de 200 000 nautiques autour de ce point. Et tout ça, 200 000 nautiques, c'est 370 km, 370 km, ça vous appartient. C'est-à-dire que vous faites en fait ce que vous voulez avec. Donc le pays qui est riche et qui peut l'exploiter lui-même, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, ils l'exploitent eux, ou ils le font exploiter par les entreprises à eux, et pour pour les pays pauvres et qui peuvent pas l'exploiter parce qu'ils sont ni riches, ni non, ils n'ont pas encore la technologie, ou ils l'ont pas, ou ils pourront jamais l'avoir parce qu'on leur a interdit de l'avoir, eh bien, ils le laissent en concession à des pays autres. Alors, c'est par exemple, ça fait la grande fortune de Total au Gabon, par exemple. Ça fait la grande fortune de la China Petroleum aujourd'hui au large de l'Angola. Donc, et au-delà de cette région des 200 000 nautiques, bon, on peut la pousser un peu plus loin dans certains cas, mais je vais pas rentrer trop dans les détails. Eh ben, vous avez la haute mer. Et la haute mer, eh bien, ça appartient à tout le monde. Et là, je peux m'adonner à la surpêche, je peux m'adonner à ce que je veux. Il n'y a pas de règle définitive. Et ça concerne quand même 66% des surfaces océaniques et maritimes de ce vaste monde. Mais pour notre petit orgueil à nous, Français, il faut quand même savoir que nous avons le deuxième plus grand vaste domaine maritime au monde, avec 11 millions de kilomètres carrés. C'est pour ça que c'était important de garder la Nouvelle-Calédonie, c'est pour ça que c'est important de garder la Polynésie française, c'est pour ça que c'est important de gagner nos drums et nos tomes à travers le monde, et nos taffes, ces îles inhabitées au sud de la Réunion. Et les Anglais font exactement pareil, hein, ils voulaient partir du Pacifique parce que ça leur coûtait trop cher, ils se sont dit, bon non, en fait, on va revenir avec les îles Pitcairn, c'est très bien. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet à des FTN, hein, ces fermes transnationales super riches, et bien d'exploiter le pétrole, d'exploiter la pêche, hein, et aussi et bien de faire de contrôler un peu ce trafic commercial. Je rappelle, hein, nous sommes dans une containerisation. Cette containerisation, elle part globalement de l'Asie, qui est devenue notamment avec la Chine l'atelier du monde, et puis elle vend à travers le monde des tas de produits en Afrique, en Europe, en Amérique. L'industrie textile africaine est en train de disparaître sous les coups de boutoir des produits made in China. Et nos t-shirts que nous achetons, ils viennent bien du Bangladesh ou d'Éthiopie, donc il faut bien que ça vienne avec un moyen de transport, et ce moyen de transport, eh bien c'est le plus économique, c'est 90% du trafic mondial, eh bien il se fait par porte-conteneurs. Seulement les porte-conteneurs, ça ne rentre pas dans le vieux port de Marseille, ça c'est plus possible, ça rentre pas sur les quais de la Joliette, ça c'est pas possible non plus. Là on va juste garder les bateaux qui vous mènent vers de l'autre côté de la Méditerranée ou en Corse. Non, ceux-là, ils vont à Fos-sur-Mer. Là, c'est bien, c'est plat, c'est connecté directement avec le réseau autoroutier ou ferroviaire, mais surtout autoroutier, au restant du monde. Donc, et Xi Jinping, c'est le grand projet chinois, c'est de faire donc ces colliers de perles maritimes. Et pour que ce commerce fonctionne bien, il faut lutter contre ce qui existe toujours quand on a des riches et des très pauvres. C'est qu'un jour, les pauvres, ils se disent, tiens, si on piquait le bateau riche, là, et ça vous donne les pirates. Les pirates somaliens, c'est qui? C'est des pêcheurs, mais on a tellement pêché au large de leur côte qu'en fait, ils ont plus de quoi se nourrir. Et donc, pour se nourrir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les bateaux qui passaient devant. Donc, ils ont pris d'assaut avec leurs frêles esquifs et ils sont allés à l'assaut des... Alors, en plus de ça, il n'y a plus d'État en Somalie depuis 20-30 ans. Donc, c'était bien plus facile comme ça. Et pour garantir ce transport maritime, là, vous savez, les puissances qui se chamaillent, qui montrent leurs gros bras, mais ils sont capables de se mettre d'accord. C'est notamment le cas à Djibouti, hein, où maintenant vous avez une base aéronavale française, une base aéronavale américaine, une base aéronavale chinoise qui vient de se construire. Et il semblerait que les Indiens aient aussi envie de construire leur propre base aéronavale. Maintenant, si on va vers... on peut parler aussi des enjeux écologiques, parce que c'est quand même les plus importants pour l'humanité.
Regarde un peu les survivants, ils ont des larmes au fond des dents. Ils voudraient changer d'autoroute, mais c'est pas comme ça qu'on s'y prend. Ne fais plus confiance à personne, c'est la devise des naufragés. Y'a toujours un con qui klaxonne pour qu'on continue d'avancer. C'est beau la vie quand on y pense, un peu moins quand on la dépense. À s'énerver toute la journée, on finit par tout oublier. N'ayons plus peur de l'essentiel, n'oublions pas d'être fidèles à ceux qui nous montrent le ciel pour voler nos âmes. Regarde un peu vers l'horizon.
On arrive à la fin de cette émission. Tu vas nous parler maintenant, pour terminer cette émission, les enjeux écologiques.
Ah oui, ces enjeux écologiques, ils sont de plusieurs sortes. Alors, je vais aller assez vite, même si c'est fondamental pour l'humanité. On parle de réchauffement climatique, mais en fait, le réchauffement climatique, il gêne personne. Enfin, il gêne pas grand monde, et surtout pas le monde du transport dont je venais de parler aujourd'hui, de containerisation. Pourquoi ? Bah parce que on a une route du Nord qui est extraordinaire. C'est l'Arctique. Et l'Arctique, c'est un océan, et cet océan-là, il n'est plus pris par les glaces, et donc ça permet de gagner 6000 km en Tokyo et Rotterdam, et un peu plus, 6500, 6700 entre Shanghai et Rotterdam. Résultat des courses, l'entreprise consommera moins de carburant, moins de personnel, de frais de personnel. Et ensuite, ça permet aussi d'exploiter des ressources qui étaient sous cet océan-là, pris par les glaces. Et ça fait plaisir à toutes les compagnies pétrolières que vous connaissez et à toutes les compagnies minières que vous connaissez. Ce qui est important aussi, c'est la pollution des mers. Et là, je vais parler aux futurs baigneurs de Méditerranée. La Méditerranée, c'est un océan, c'est une mer qui est de plus en plus polluée. C'était les boues rouges du côté de Marseille, mais il n'y a pas que les boues rouges du côté de Marseille. Il y a tout ce qu'on jette, les mégots, les plastiques, tout ça. On parlait d'une mer de plastique dans l'océan Pacifique, maintenant vous avez une mer de plastique au milieu de la mer Méditerranée. Et ça, c'est jamais pris en considération, et on verra bien ce qui en ressortira des différentes organisations qui sont apparemment créées ici et ailleurs. Nous sommes face à un écosystème très fragile. On fait de la surpêche. Je sais pas si on se pose véritablement la question à chaque fois qu'on va au Leclerc et dans un supermarché pour le poisson qui est dans les étals, et qu'est-ce qu'on en fait ? Je rappelle juste une donnée. Nous jetons, avant d'être consommés, 70% de ce que nous récoltons, que ce soit dans les mers ou que ce soit sur Terre. Et ça devrait nous faire réfléchir, alors que certains surconsomment des produits maritimes. L'avenir de l'humanité, chers auditeurs et chères auditrices, eh bien, il dépend des océans. Nous en venons, et si nous faisons pas attention à ce qui va se passer, on va certainement terminer comme les derniers dinosaures. Je ne suis pas alarmiste, je pense que l'humanité a des ressources en elle, et que la conscience permet de rétablir les choses, donc je ne suis pas catastrophiste. Ce n'est pas seulement une question esthétique. Quand vous êtes au bord de la mer, ce n'est pas de l'esthétisme le bleu. Le bleu, en dessous, il est vivant. Il est vivant, et tout ce que vous avez est vivant. Et quand vous vous baignez avec une crème solaire chimique dans une mer, eh bien, vous êtes en train de polluer du vivant. Et ce vivant-là, il faut le protéger à tout prix, pour nous, pour les générations futures et pour les animaux qui y vivent et qui ont le droit aussi d'y vivre correctement. Maintenant, je voudrais m'adresser, avant de vous quitter, à tous mes élèves du lycée Scandon qui vont passer leur bac. Je leur souhaite bien du courage. Merci pour cette super année. Je remercie aussi James Fontaine à la technique, à la musique, Fréquence Mistral pour éveiller les consciences locales. Et je vous donne rendez-vous le mercredi 26 juin 2019 à 15h pour une géopolitique mondiale des populismes.
Merci beaucoup Serge, et vous pouvez retrouver cette émission sur notre site fréquencemistral.com, et nous allons nous quitter sur notre générique favori, de la musique des Monty Python.
Galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe.